France Culture.
Les midis de culture, ne bougez pas, ça continue. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. À 13h, comme promis, je discuterai avec le plasticien Wolfgang Tillmans. Mais tout de suite, place au point culture de Marie Sorbier. Bonjour.
Bonjour à tous et bonjour Marie. Le collectif pour les littératures en langue régionale à l'école appelle à intégrer dans les programmes scolaires les grandes œuvres écrites en langue dite régionale. Un manifeste littéraire, politique et pédagogique pour réconcilier l'école avec la diversité culturelle du pays, salué notamment par Amine Mahalouf, secrétaire perpétuel de l'Académie française. Sensibiliser professeurs et élèves aux œuvres en langue régionale, c'est le dossier du Point Culture du jour. Michel Feltin-Palas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à l'Express et membre du collectif pour les littératures en langue régionale. Vous avez lancé avec ce collectif une initiative qui vise à proposer un corpus de textes aux professeurs de français pour les sensibiliser à la richesse de ces littératures au pluriel. On y reviendra, c'est important. Alors d'abord, comment s'est constitué ce collectif et quelle urgence vouliez-vous mettre en lumière ?
Écoutez, nous sommes frappés régulièrement par des attaques qui sont dressées contre les langues dites régionales. La dernière en date, c'est Emmanuel Macron qui, lors de la présentation de la dernière édition du dictionnaire de l'Académie française, a eu cette phrase. Il a dit « Les langues régionales sont un instrument de division de la nation ». Et pour nous, les langues régionales ne sont pas un instrument de division de la nation, mais font partie de la richesse de la nation. Et nous souhaiterions le montrer en introduisant des littératures en langue régionales qui sont nombreuses, qui sont riches, qui existent depuis plusieurs siècles dans différentes langues de France, de les introduire dans l'éducation nationale de telle sorte que les enfants français sachent qu'il existe des auteurs français qui ont écrit dans d'autres langues de France que le français, cela depuis des siècles. D'une certaine manière, on apprend, et c'est très bien aux enfants français qu'on apprend à étudier, je ne sais pas, Shakespeare ou Kafka, hein, des auteurs étrangers, et bien de la même manière, on pourrait étudier un auteur comme Frédéric Mistral, qui a été prix Nobel de littérature pour une œuvre écrite en provençal, et ça, on ne le sait pas. Voilà.
Mais alors, que répondez-vous aux critiques qui justement soulèvent que cette langue française unifie le peuple, ce qui est en effet le cas, hein, mais que les langues régionales le partitionnent? Comment on répond à ce mouvement de pensée-là?
Écoutez, c'est confondre l'unité et l'uniformité. La France est riche de sa diversité. On a une diversité de paysages, d'architecture, de gastronomie. Il ne viendrait à l'idée de personne d'uniformiser les gastronomies, les paysages, etc. De la même manière, que le français soit la langue commune, c'est une très bonne chose et ça assure notre cohésion nationale. Mais le français ne doit pas devenir une langue unique. Si on faisait un parallèle en Europe, si vous voulez, c'est comme si on disait, voilà, pour unifier l'Europe, il faut imposer partout la même langue et détruire les autres langues. Imaginons qu'on fasse ça avec l'anglais et qu'on dise aux Français à partir de la semaine prochaine, tout est en anglais partout, nos écoles, nos entreprises, nos administrations, les Français le refuseraient et ils auraient raison parce qu'ils aiment la diversité. Eh bien, c'est la même chose au sein du territoire français, le français langue commune, oui, le français langue unique, non.
Alors, j'évoquais ce corpus hein, que vous proposez avec les autres membres du collectif. Comment il a été constitué ce corpus? Qui est-ce qu'on retrouve à l'intérieur?
Alors, forcément, il y a une part de subjectivité. L'idée a été de faire un corpus relativement court. Il y a 32 textes et 13 langues pour l'instant, aussi bien de métropole que d'outre-mer. Hein. C'est vraiment une démarche très ouverte qui vise à montrer la richesse des littératures françaises. Donc, on va retrouver Frédéric Mistral, hein, prix Nobel de littérature pour une œuvre en provençal. C'est quand même un symbole extraordinaire. On va retrouver, par exemple, Pierre-Jacques Ézélias pour une œuvre en breton, Raphaël Confiant pour une œuvre en créole martiniquais. Et puis, si je vous donnais d'autres noms, il est probable que vous ne les connaissiez pas, si je vous parle de Marcella Delpastre ou de Henri Hirault ou d'Alexandre Desrousseaux. Mais c'est justement le problème, c'est que ces auteurs qui existent ne sont pas étudiés, ils ont été invisibilisés d'une certaine manière, et le but c'est de montrer cette richesse de ces littératures.
Alors justement, l'idée c'est bien de montrer la richesse de la littérature et pas de donner des cours en langue régionale, ça c'est une autre question.
Voilà, vous avez tout à fait raison de le préciser, il ne s'agit pas de donner des cours en langue régionale, il s'agit d'étudier en français des œuvres qui ont été écrites dans d'autres langues de France que le français, comme on le fait, je le disais tout à l'heure, avec Shakespeare ou avec Kafka. Quand on étudie Kafka, on ne prend pas des cours de tchèque, mais on apprend à découvrir un auteur tchèque. Ou si on lit Dostoïevski, on n'apprend pas le russe, mais un auteur russe. Bien, de la même manière, il s'agirait pour les enfants français de savoir qu'il y a des auteurs alsaciens, corses, picards, etc. Mais ne pas faire des cours de langue, hein, c'est différent. Et c'est vraiment une démarche d'ouverture, hein, parce que ce qui serait de l'enfermement, si vous voulez, ce serait de réserver la littérature basque uniquement aux enfants qui apprennent le basque. de réserver la littérature corse uniquement aux enfants qui apprennent le corse. Là, il s'agit vraiment, je crois, pour un petit Parisien, par exemple, d'étudier un auteur picard, corse ou basque. Voilà, c'est vraiment de l'ouverture sur l'altérité française.
Alors, on parle des enfants qui pourraient bénéficier de cette diversité et de cette richesse des littératures de France, mais vous parliez aussi de sensibiliser les professeurs. Est-ce à dire que vous avez l'impression qu'il y a un manque de connaissances, de formation et de culture autour de ces auteurs-là ?
Oui, bien sûr, ça n'est pas du tout la faute des enseignants. Ils ne sont pas sensibilisés au cours de leur formation à ces littératures. À ma connaissance, je crois que le corpus que nous avons constitué est une première historique. Ça n'existe pas. Malheureusement, en France, on est même allé plus loin. Vous savez peut-être que les troubadours qui écrivaient en Languedoc dominaient l'Europe littéraire au XIIe et XIIIe siècle. Les troubadours sont étudiés dans de nombreux établissements scolaires à travers l'Europe. Ils ne le sont pas en France. Et pire, j'ai découvert il y a quelques années un éditeur scolaire qui présentait l'œuvre des troubadours comme étant écrite en français du Sud. C'est vous dire à quel point la méconnaissance confine parfois à la propagande. Enfin là, c'est quand même parce que c'est quand même écrit par des agrégés de lettres, normalement, qui doivent le savoir, ça. Donc vous voyez, on part de très très loin en France. Et donc, ben, notre objectif, c'est de réconcilier la France avec sa diversité. Et au-delà des littératures, si vous voulez, c'est de redonner de la dignité à ces langues qui ont été souvent présentées comme des patois, etc. Comme des... Il n'y a pas de grammaire, il n'y a pas de vocabulaire. Ben, non, les linguistes le savent. Toutes les langues sont des langues. Les langues de France ne sont pas devenues langues officielles en dehors du français, mais ça ne fait pas de ces langues non officielles, des sous-langues, des patois ou des dialectes. Ce sont des langues qui ne sont pas officielles. C'est tout, voilà. Et donc, à travers la littérature, il s'agit bien de redonner de la dignité à ces langues et derrière les langues à leurs locuteurs, hein, puisque souvent le mépris des langues s'accompagne d'un mépris des locuteurs.
Alors, vous avez envoyé cette initiative au Premier ministre, à la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, et vous venez de recevoir un soutien alors de l'Académie française, ce n'est pas rien, hein, via Amine Maalouf. Est-ce que ça vous a surpris, ce soutien, et qu'est-ce qu'il représente ?
Écoutez, c'est extraordinaire au sens premier du terme. Hein. Alors, soyons précis, c'est Amine Maalouf à titre personnel qui soutient l'initiative du collectif, mais il se trouve quand même qu'Amine Maalouf est secrétaire perpétuel de l'Académie française. C'est extraordinaire parce que, à ma connaissance, c'est la première fois dans l'histoire de l'Académie, qui a quand même quelques 400 ans, que l'Académie française prend une initiative en faveur des autres langues de France. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Ça tient évidemment à la personnalité d'Amine Maalouf, hein, qui, comme on le sait, est franco-libanais, donc il sait ce qu'est une double culture, et il sait que les cultures s'additionnent, s'enrichissent mutuellement, ne se confrontent pas. Hein. Quand nous défendons les littératures en langue régionale, on n'attaque pas du tout le français. Hein. Aimer les langues régionales, ça n'est pas attaquer le français, c'est aimer la diversité culturelle. Hein. Et Amine Maalouf, il comprend parfaitement ça, et il estime qu'effectivement, il serait normal, naturel, que les enfants de France connaissent mieux les troubadours que les enfants de Bulgarie, par exemple, où les troubadours sont enseignés. Et à moi aussi, alors, je suis un peu partisan, mais ça me paraît être du bon sens, d'une certaine manière.
Pas de réponse encore de la part du Premier ministre ou de l'Éducation nationale.
C'est normal. Hein. Nous avons demandé un rendez-vous à Elisabeth Borne, d'une part, et à François Bayrou, d'autre part, dont on sait qu'il est, lui, particulièrement favorable aux langues régionales, et c'est assez exceptionnel dans le personnel politique français. Voilà, mais nous leur avons écrit la semaine dernière, nous leur avons envoyé ce corpus que nous avons intitulé Florilangue, et nous espérons avoir une réponse dans quelques semaines. Voilà, mais il faut leur laisser le temps. Ils sont des personnes occupées, c'est bien normal. Ça n'est pas urgentissime, mais on espère être reçus. Et le soutien d'Amine Maalouf dans ce cadre-là peut être décisif.
Bien, on guettera les réponses éventuelles. Merci beaucoup, Michel Faltin-Pala. Je rappelle que sur le site de l'Express, on peut retrouver votre lettre hebdomadaire qui s'appelle « Sur le bout des langues ». Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, qui est très éclectique, Petit Ours Brun fête ses 50 ans.
Mais oui, mais il est le héros le plus ancien de Bayard Presse, l'icône du magazine Pomme d'Api, cultive la lenteur à rebours d'un monde de vitesse et peuplé d'écrans. Marie Aubinet, son autrice, se déclare étonnée de sa longévité et de son succès. 3 millions de magazines et 800 000 livres sont vendus chaque année. Pour son anniversaire, Petit Ours Brun a droit à une déclinaison audio de ses aventures dans une dizaine de langues, dont l'arabe et le chinois. Un numéro collector avec 50 histoire depuis 1975 est en kiosque et un nouveau livre sortira en octobre.
Et pour finir, Marie, le 42e marché de la poésie commence aujourd'hui.
Sont attendus plus de 400 éditeurs, revues de poésie et de création littéraire qui viennent d'Île-de-France, de la France entière, de pays européens et d'autres continents. Son président d'honneur cette année, Éric Ruff, directeur de la Comédie-Française. Alors, place Saint-Sulpice à Paris jusqu'à dimanche, vont être organisées des tables rondes, des rencontres, des lectures et près de 400 signatures. La poésie palestinienne sera invitée d'honneur. Une dizaine de poètes palestiniens sont présents durant les 5 jours du marché. Et bien sûr, comme d'habitude, le programme complet du marché de la poésie est sur la page du Point Culture.
Merci Marie, on se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles.
À demain.
À demain.